Rupert était de méchante humeur. Les cadavres des trois filles ayant été découverts dans le tunnel, il avait dû abandonner l'affût contre son gré. L'affaire avait provoqué force hurlements ainsi qu'un début de panique. Un vieillard avait été piétiné. Méridiou, lui, avait préféré s'éclipser, ne tenant pas à justifier de son identité auprès de la police. Les journaux parlaient déjà d'un nouveau Jacques l'Éventreur sévissant dans le métropolitain. Quelle sottise! N'y avait-il donc personne pour se rendre compte que ces femmes étaient des espionnes infiltrées? De retour chez lui, il alluma le chauffe-bain à gaz et se plongea dans la baignoire. Il puait. C'est toujours une épreuve pour un homme de qualité de côtoyer la populace. Mais cela faisait partie des souffrances qu'il devait endurer sur le long chemin de la 16. Il y en aurait d'autres. Toutefois, il dut s'avouer qu'il était mortifié à l'idée d'avoir attrapé des poux, aussi se frictionna-t-il avec l'énergie d'un pénitent maniant la discipline. La tête ruisselante de mousse, la peau rougie, il se prit à maudire Amy Sweetheart. Où était-elle passée? Pourquoi n'était-elle pas revenue? Son instinct de louve l'avait-il averti de l'embuscade? C'était bien possible. En la sous-estimant, il avait commis une erreur. La facilité avec laquelle il avait liquidé ses trois filles l'avait rendu négligent. Les mortes du tunnel n'étaient que des servantes. Amy, elle, jouissait du statut de princesse. « Elle va te donner du fil à retordre, songea-t-il. La prochaine fois, tu ne devras rien laisser au hasard. » Quand Amy regagna le métropolitain, elle y fut accueillie par une Libye folle d'inquiétude. « Bon sang, où étais-tu passée? Je te croyais morte, » haleta la grosse fille. « On a trouvé trois filles égorgées dans le tunnel. C'est une véritable histoire de fou. Les gens ont peur. Ils disent qu'un dingue se promène sur les rails, qu'il va de station en station pour assassiner les femmes. » Amy fronça les sourcils. Cette histoire ne lui disait rien qui vaille. Elle pensa aussitôt au prince Crapaud. Était-il l'auteur des meurtres? Avait-il tué ses filles par dépit, parce qu'il n'arrivait pas à mettre la main sur elles? Était-ce une manière de lui dire « Tant que tu ne m'auras pas rejoint, je tuerai des innocentes, au hasard. Plus tu tarderas à te décider, plus tu auras de victimes sur la conscience. » Un chantage? Possible. Troublée, elle suivit Libby sans rien entendre du bavardage de sa compagne. Quand elle arriva sur le quai, elle se heurta à Huck, qui la toisa d'un air méchant avant de déclarer « La prochaine, ce sera toi. L'exécuteur te cherche, il m'a parlé. Il va s'occuper de toi, c'est sûr. Ces filles, c'était juste pour s'entraîner. Un peu comme les bourreaux qui essayaient leur hache en décapitant des veaux. » Amy ne put s'empêcher de frissonner. Elle avait beau savoir que le jeune homme n'avait plus sa tête, ses menaces l'effrayèrent. En raison des crimes, les réfugiés obtinrent que les stations restent en partie éclairées pendant la nuit et que des bobies patrouillent au long des voies. Amy doutait cependant que les autorités prennent la chose au sérieux. Trois filles assassinées, c'était peu en regard des 400 ou 500 morts que les raids aériens faisaient chaque soir. La guerre avait ses priorités. Les hommes décidèrent de former des comités de vigilance. On alla même quérir un chien qui fut proclamé mascotte de la station. Amy restait sur ses gardes. Alors qu'elle s'emmitouflait pour la nuit, elle retrouva dans ses poches les fragments des tableaux transformés en puzzle. Machinalement, elle essaya d'en assembler les morceaux épars. Elle eut la surprise de découvrir qu'elle n'avait conservé de chaque toile que l'image de fond, le manoir et le château. Les petites filles, les chasseurs à cours, elle les avait éliminées. Son esprit essayait donc de lui transmettre un message. Mais lequel? L'Angleterre était pleine de châteaux. Si elle devait localiser l'un d'eux, il lui fallait davantage d'éléments. Sur le quai, la vie s'organisait. Pour dissiper l'affreuse atmosphère installée par les meurtres, on demanda aux jeunes filles de distraire les enfants qui vivaient désormais dans la crainte de celui qu'entre eux, ils surnommaient le loup-garou. À cette occasion, Amy découvrit qu'elle était capable d'exécuter toutes sortes de tours de magie à partir d'objets usuels, mouchoirs, foulards, balles, ficelles. Ces démonstrations d'adresse naissaient au bout de ses doigts presque à son insu. C'était comme si ses mains agissaient de leur propre chef sans lui demander son avis. Elle comprit que c'était là le fruit d'un long entraînement et elle se rappela que les espions étaient initiés au tour de prestidigitation afin de développer la dextérité manuelle nécessaire à leur activité de pickpocket. Quoi qu'il en soit, son adresse faisait le bonheur des marmots qui l'observaient bouche bée. « Ça alors, s'extasia Libby, ça m'embouche un coin. Tu as travaillé dans un cabaret, c'est sûr. Tu devais être l'assistante d'un magicien. » Entre deux prestations, Amy inventait des histoires. Encore une fois, elle ne savait d'où lui venaient ses contes à dormir debout, dont les péripéties naissaient sur ses lèvres sans qu'elle ait à accomplir le moindre effort d'imagination. Il était question d'une petite fille nommée Mamselle Two Shillings et son chat Teacup, qui avait la vilaine habitude de tremper sa queue dans les théières. Mamselle Two Shillings et le chat mal élevé habitaient dans un château. « Dessine la petite fille !» criaient les enfants. « Dessine le chat ! Dessine le château !» Amy s'exécuta. Avec un crayon gras prêté par un apprenti menuisier, elle entreprit de gribouiller sur le mur. Elle s'aperçut qu'elle était plutôt adroite à ce jeu et que les caricatures sortaient de ses doigts avec fluidité. Elle dessina donc la petite fille et le matou et le château. Quand les enfants se dispersèrent pour aller rejoindre leur mère, Amy resta seule, agenouillée devant le dessin qui occupait 1 mètre carré de paroi. Elle s'étonna de la minutie avec laquelle elle avait représenté le castel. À 2 reprises, elle avait même éprouvé le besoin de corriger un détail qui n'était pas à la bonne place, comme s'il ne s'agissait pas d'un manoir de fantaisie mais d'un bâtiment réel dont elle connaissait l'architecture. Abîmée dans sa contemplation, elle n'entendit pas le vieillard s'approcher d'elle. Coiffée d'un chapeau melon cabossé, les joues mangées par une barbe grise de 3 jours, il portait sur le nez de curieuses lunettes rondes d'un autre âge. Malgré sa dégaine, son maintien restait celui d'un homme de la bonne société. « Ashdown Castle !» murmura-t-il en plissant les paupières. « Vous avez représenté Ashdown Castle à l'époque de sa gloire. » Amy sursauta. « Vous voulez dire que ce château existe vraiment ?» haleta-t-elle. Oui, ou plutôt non, marmonna le vieux. Disons qu'il existait encore jusqu'à une date récente. Il a brûlé. Une terrible perte pour l'art. Le comte Ashdown était collectionneur. Il avait rassemblé une galerie de tableaux d'une immense valeur. Tout a été consumé par les flammes en l'espace de quelques heures. On a parlé d'un acte criminel, je crois. Je ne peux vous en dire plus, je ne lis pas les faits divers. Et le comte, qu'est-il devenu? Brûlé vif avec toute sa famille, comme les sorcières au Moyen-Âge. Mais je ne me suis pas présentée. Anthony Reginald Markham, jadis chargé de cours à l'Institut Royal d'Architecture, aujourd'hui à la retraite, sans abri et sans autre richesse que les vêtements que je porte sur le dos. Enchanté, répondit Amy. « Où se trouve Ashdown ?»« Quelque part dans la forêt de Balmore, au nord de Londres. » Amy le remercia. Elle avait repris espoir. Elle savait ce qu'elle devait faire. Convaincre Libby de l'emmener là-bas. Par mesure de prudence, elle effaça le dessin à l'aide d'un chiffon mouillé. Elle préférait partir sans laisser d'adresse. Quand Rupert Merridew redescendit dans le métro, vêtu cette fois de son uniforme, il ne put mettre la main sur Amy Sweetheart. Malgré tous ses efforts, la jeune femme demeurait introuvable. Une brève enquête administrative lui apprit que l'amnésique, placée sous la responsabilité de l'infirmière Libby Cogan, avait quitté Londres pour un court voyage de réinsertion. Rupert eut beau se démener, il ne trouva nulle trace des fuyardes, à croire qu'elles s'étaient évaporées. Il en conçut une terrible frustration. S'il avait pu quitter Londres, il aurait probablement fini par les localiser. Hélas, Divonne, son supérieur, estimant que le dossier Sweetheart était trop mince et les arguments de Rupert peu convaincants, lui refusa cette autorisation. « Il y a déjà de quoi vous occuper en ville, » conclut-il goguenard. « Pas la peine de courir la campagne pour glaner un surplus de besogne. Pour l'heure, contentez-vous d'expédier les problèmes courants. Votre grande espionne attendra. » À bout de ressources, Rupert se résolut à diffuser un avis de recherche auprès des postes de contrôle installés sur les principaux axes routiers. Il n'en attendait pas grand-chose, mais ne pouvait se résoudre à lâcher prise. « Je la retrouverai, » se répétait-il. « Tôt ou tard, comme les U-boats, elle sera forcée de faire surface. »